So if you have your Bibles with you, you're going to need to have them opened up at Ephesians chapter 3. Actually, the reason I say you're going to need to have them opened up at Ephesians chapter 3 is because we're going to be looking through in the next however long we do this for. We're going to be looking through. I heard that we can go until 7, right? Because it takes like 30 minutes to get there. We'll be looking at Ephesians 3, verses 1 to 6. So we read the whole chapter to have a bit of context earlier, but we're going to be zooming in on just those 6 verses this evening. And next week, we'll look at 6 other verses and so on.
Donc, j'espère que vous avez toutes vos Bibles devant vous. Si vous n'en avez pas, nous, on en a, en français et en anglais. Et parce qu'on va regarder les 6 premiers versets aujourd'hui. Et on a lu tout le chapitre pour avoir un peu de contexte, mais aujourd'hui, on va regarder les 6 premiers.
And if you're here for the first time or you haven't really been here with us, it'd be good and helpful for you to know that we've been going through the whole letter of Ephesians. And we started at chapter 1, verse 1, and we've been sort of working through.
Pour ceux où c'est la première semaine avec nous aujourd'hui, les dernières semaines, on a traversé le début de Éphésiens.
And, you know, throughout these first two chapters of Ephesians, Paul, who's the author, has been telling us all about God's grand plan of salvation for fallen humanity.
Et dans ces premiers chapitres, on a vu Paul qui parle du grand plan de Dieu pour sauver l'humanité.
He has talked about God's mighty strength at work on behalf of all Christians in Ephesians 2:19-20.
On a vu la puissance de Dieu qui travaille à travers les chrétiens dans le chapitre 2.
In Ephesians 1, he mentioned how God will put all things in this world, all things that exist, under Christ's rule.
Et dans le chapitre 1, on a vu qu'il a mis toutes les choses dans ce monde en dessous de Christ.
And in the beginning of chapter 2, he paints a sort of glorious picture of how dead sinners are given a life in Christ, and how they're now reigning gloriously in the heavenly realms in Christ.
Et dans le chapitre 2, il nous a donné une image glorieuse des pécheurs morts que nous étions, qui sont revenus à la vie et dans une vie glorieuse où on peut être avec Christ.
And then he's also talked about Christ, the peacemaker, who's reconciled us to God and to one another.
Et on a vu que Christ était apporté la paix et nous réconcilier avec Dieu.
In a word, he's been presenting the gospel in quite powerful and victorious ways.
Donc, il présente en gros l'évangile avec des images puissantes et glorieuses.
But there's a problem.
Mais il y a un problème.
Guess what the problem is?
Essayez de deviner le problème.
Is Paul reigning powerfully and gloriously?
Est-ce que Paul, il est en train de régner avec puissance et gloire?
Where's Paul when he writes this letter? We see it in the first verse, really.
Où est Paul quand il écrit cette lettre? On le voit dans le premier verset.
Yeah, he's in prison. Paul's in prison.
Paul, il est en prison à ce moment.
If he's in prison, how is God working powerfully to put all things under Christ's reign or Christ's feet?
Donc si Paul il est en prison, comment est-ce que Dieu est en train d'œuvrer pour mettre toutes les choses aux pieds de Christ?
Wouldn't God be better served if Paul, who's been this rather successful, if you want to look at it in those terms, missionary throughout the known world? Wouldn't it be better if he was free and able to, preach the gospel wherever he felt led, right? Wouldn't God's message, God's gospel be better served in that way?
On pourrait penser, mais est-ce que le message de Dieu pourrait être mieux amené aux personnes et mieux représentative de sa gloire si Paul il était libre pour aller où il voulait en missionnaire pour partager l'évangile de Christ.
See, doesn't the fact that Paul is in prison show that God may not be God's gospel may not be as glorious and as victorious as all that? I mean, one of his main players is in prison.
Donc le fait qu'il est en prison, est-ce que ça pourrait pas montrer que Dieu il n'est pas aussi glorieux et victorieux qu'on pourrait le penser? Un de ses serviteurs principaux est en prison.
To give you maybe a sports metaphor to help you understand where I'm going at with this. If you are playing, and this works for any sport to be honest. If you're a manager of any sports team and you want to win the game, do you put your star player in or do you take him out?
Donc pour donner une image du sportif, si vous étiez le manager d'une équipe, est-ce que vous mettrez votre meilleur joueur sur le terrain ou est-ce que vous le laisserez sur le banc?
See, Paul knows how this looks like, right? And he knows that some of the people that he's been preaching the gospel to might feel this way, even though they'd be totally wrong to feel this way. But they might feel like God isn't able to help Paul out of his predicament. Therefore, Paul's message is meaningless.
Et Paul, il sait l'impression que ça peut donner aux personnes. Il sait qu'il y a des personnes qui reçoivent ce message qui se disent que ben, puisque Paul il est en prison, Dieu il peut pas faire tout ce que Paul dit parce qu'il est impuissant devant ça.
Or in a world where they had many gods to choose from to worship, they might be thinking, well, hello, Paul, your God can't help you out when you're in prison. I'm going to go worship some other God who can help me out. Help me out when I'm going through a tough time.
Et dans ce monde, il y avait beaucoup d'autres dieux, donc quelqu'un pourrait penser, mais Paul, je ne vais pas suivre ton dieu alors qu'il ne peut même pas t'aider à sortir de prison, je vais plutôt aller vers un autre dieu qui peut-être fera de meilleures choses.
So, knowing this, Paul decides that at this moment, in this letter, he's going to have to defend his role in God's plan of salvation for
donc, sachant ces choses, Paul il sait que à ce moment ou à un moment dans la lettre, il va falloir que lui il défende sa position et son rôle dans le plan de Dieu.
And so that's what we have in Ephesians chapter 3 verses 1 down to 13. We have God's Paul's defense of his current situation and
donc,
of his role.
Et donc c'est ce qu'on a dans dans ce chapitre des versets 1 à 13, c'est la défense de Paul par rapport à son rôle dans ce plan.
And this evening, as we go through verses 1 to 6, we're going to learn something through Paul's defense about God's servant, about God's purpose in his revelation, and about God's new nation or God's new community, God's people. I'll put it that way. God's servant, God's purpose and God's people.
Et donc c'est à travers ces premiers 6 versets qu'on va voir va avoir plus de clarté sur le serviteur de Dieu, le but de Dieu et la nouvelle communauté, le nouveau peuple de Dieu.
We can go with le plan de Dieu.
Pour le deuxième?
Yeah.
Okay. Donc le deuxième c'est le plan de Dieu au lieu du but. Voilà.
So first, let's see what we can learn about God's servant. And when I say God's servant, I'm referring specifically here to Paul. Because Paul, what's he doing? He's talking about himself. So we're going to have to talk about him as well.
Donc le premier, le serviteur de Dieu, on va parler de Paul. Donc parce que Paul parle de lui-même.
See, right before we tackled this passage, well, right before I started preaching, we sung a song about suffering, right? Why do we sing the song about suffering? Well, because Paul, as you mentioned, well, he's suffering as well. He's a prisoner.
Donc, juste avant qu'on a commencé ce message, on a chanté une chanson par rapport à la souffrance. Donc, pourquoi est-ce qu'on a chanté par rapport à la souffrance? C'est pour avoir un petit peu plus une vue sur la situation de Paul, où lui, il est vraiment en train de souffrir.
And for those of us who might not be too familiar with Paul's story, or maybe were but may have forgotten it, that happens to me quite often, it's helpful to remember that Paul is, as he is writing this letter, he is Most likely, it's always hard with history to be 100% sure what people are, but he's most likely a prisoner of Rome, right? On his way from Jerusalem to the capital city, Rome, where he will stand trial before Caesar.
Donc pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec l'histoire de Paul, c'est, il y a de grandes chances qu'à ce moment, Paul il était un prisonnier de Rome pendant qu'il était de voyage entre Jérusalem et Rome.
And if I were to say become a prisoner of France, or if I were to do something illegal and be put in jail, you would consider me to be a prisoner of... I gave you the answer earlier. Of France, right? I'd be a prisoner of France. You probably wouldn't say a prisoner of Macron, because he doesn't necessarily represent France as a nation. But I'd be considered a prisoner of France. Did you guys catch? Oh, I'll let you translate.
Donc, par exemple, si on faisait quelque chose d'illégal ici, et qu'on serait mis en, enfin, on serait mis en prison, donc on serait un prisonnier de la France et pas nécessairement un prisonnier de Macron parce qu'il ne le représente pas enfin, complètement et à tous les niveaux.
Did you guys catch how Paul describes himself as? What is he a prisoner of? Is he a prisoner of Rome? What does he write? Someone want to read it out there?
Donc, est-ce que vous avez vu ce que Paul a dit par rapport à au fait qu'il est prisonnier? Est-ce qu'il a dit qu'il était, par exemple, prisonnier de Rome? Est-ce que vous avez vu? Vous pouvez le dire, si vous voulez.
Yeah, he is a prisoner of Christ.
Ouais, c'est donc le prisonnier de Jésus-Christ.
See, he doesn't see himself as Rome's prisoner or as Caesar's prisoner. He sees himself as a prisoner of Christ. And he can only say that if he understands Caesar and the whole of Roman Empire to be nothing more than a tool in Christ's hand.
Et donc il dit qu'il est prisonnier de Jésus et non pas de Rome ou de César. Et il peut seulement dire ça parce qu'il comprend que tout l'Empire romain et César lui-même n'est rien d'autre qu'un outil pour Dieu.
A technical way of putting this is all things are under Christ's rule. Under Christ's sovereignty.
Donc, en gros, ça veut dire que toutes les choses font partie du règne de Christ.
That's how he sees the situation. And though his situation might seem bleak and disturbing, he knows that it's actually leading to the advance of the gospel and bringing glory to Christ in the Gentile world. Because he says, I'm a prisoner of Christ for the sake of you Gentiles.
Et même si sa situation maintenant a l'air assez désespérante, il sait que c'est un passage et c'est Jésus va utiliser ça pour amener l'évangile à plus de personnes.
Do you know this to be true for you? For yourselves? Or do we know this? I'm saying you as if I'm not concerned here, but do we know this to be true for ourselves as well? Do we see all of our situation, all of our different and differing situations, whether they be good or bad, as under the sovereignty and rule of Christ?
Est-ce que nous on voit ces choses? Est-ce que nous on voit notre vie de la même façon? Est-ce que nous on voit que toutes nos situations, que ça soit positif ou négatif, sont sous le règne de Jésus?
See, for Paul, God isn't scrambling around trying to find a solution for his predicament. For Paul, this was part of God's plan for him and for the gospel to go out. And likewise for us, sometimes when we suffer specifically... Oh, let me translate before going into that.
Donc Paul, là, on voit qu'il n'est pas en train d'essayer de trouver une solution pour sortir de prison. Il sait que sa situation est sous le contrôle de Dieu. Et il faut que nous aussi, on le voit de la même façon, surtout quand on est en train de souffrir.
Exactly what she said. And our suffering, sometimes, it might seem like God is scrambling to make things right in our world, in our lives. But we need to understand that at those moments, he is just as much in control of you and your situation as when all things are working out well.
On peut se dire que quand on est en train de souffrir, Dieu, il essaye de trouver une solution. Il cherche comme il peut pour nous donner pour aider notre situation. Mais il faut que nous, on comprenne que quand on est en train de souffrir, Dieu, il est autant... la situation est autant sous le contrôle de Dieu que quand tout va bien.
One could almost say, for those who love God and serve Him, all things work out well and work out to His glory.
On peut même dire, comme on a dit la semaine dernière, c'est ça, que toutes les choses qui se passent sous le règne de Dieu sont pour sa gloire.
All right. So that's the first thing we learn about God's servant. We learn something important about the sovereignty of Christ in his situation, and therefore Christ's sovereignty in our situation. The second thing we learn will take us to verses 2 and 3.
Donc on a vu que Dieu donc il est souverain sur toutes les situations dans nos vies. Et donc maintenant, on va avoir une deuxième situation dans les versets 2 et 3.
I'll read it in English and Sophie will read it in French. Surely, you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is, the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly.
Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qui m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots.
All right. To help us understand this, I'd like to tell you to help us understand what Paul is saying about himself in these two verses. I'd like to tell you the story of a man named Eugene Allen.
Alors pour essayer de comprendre un peu mieux ce que Paul est en train de dire par rapport à son histoire, on va raconter l'histoire de Eugene Allen.
Allen spelled with an E, not with an A. Do any of you know Eugene Allen?
Est-ce que vous connaissez cette personne, Eugene Allen?
Have any of you seen the movie The Butler? I think in French it was translated to Le Majordome.
Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu ce film qui s'appelle The Butler, Le Majordome?
No. All right. Well, Eugene Allen, actually, he isn't a particularly important person in the history of the world.
Alors, c'est pas nécessairement une personne très importante dans l'histoire du monde.
He's American, and he's not even a particularly important person in the history of the United States of America.
Il est américain, et c'est même pas quelqu'un de très important dans l'histoire américaine.
In fact, he had a very humble job.
Il avait même un métier très humble.
He was the White House butler, or maître d', maître d' is how we'd say that in American English, for about 30 years.
Donc il était en gros le majordome de la Maison Blanche pendant autour de 30 ans.
Right? And you probably don't know who the butler of the White House is today, so of course you wouldn't know who he was. He served in the 1950s, so about 70 years ago.
Donc, à mon avis, vous ne savez même pas qui c'est aujourd'hui, le majordome de la Maison Blanche. Donc, on voit que ce n'est pas non plus une position très importante. Mais cette personne a servi dans les années 50, ou il a commencé dans les années 50. Donc, ça fait un moment maintenant.
And so, as a White House butler, his role was that of a steward, or a sort of, you could say, an administrator, but maybe intendant is a better word. And essentially, he was there to serve the president and the president's family and whoever was visiting the president at the White House and make sure that they were comfortable and they had everything that they needed. He was there in a role of service.
Donc en gros son métier c'était de servir toutes les personnes qui venaient dans la Maison Blanche, que c'était que ce soit le président et sa famille ou tous les invités. Il était là pour les servir et les rendre confortables dans la maison.
And though that's interesting, the most interesting fact about Eugene Allen's life is that he served as a butler during a particularly important period of time in American history.
Et ce qui est très intéressant par rapport à son histoire, c'est qu'il a servi pendant un moment très important dans l'histoire américaine.
See, he served several different presidents during the civil rights movement of the 1950s and the 1960s.
Il a servi plusieurs présidents différents durant le mouvement des droits civiques des États-Unis.
For those of you who don't know, who do know what the civil rights movement is, raise your hand.
Donc okay, ceux qui savent ce que c'est le droit civique aux États-Unis dans les années 60, c'est levez vos mains.
I realize that there's not actually many Americans with us today, but very very briefly, the civil rights movement is it's about the African American struggle for social justice and equity under U.S. law.
Donc pour faire très gros, cette décennie, enfin, le mouvement, c'était pour retrouver la justice et l'équité pour les Africains-Américains aux États-Unis.
Because you see, after the abolition of slavery, laws were passed that gave African-Americans less rights than others.
Parce que même après qu'on a aboli l'esclavage aux États-Unis, il y a eu des lois qui sont passées pour donner moins de droits aux Africains-Américains.
You could say that the law discriminated against them.
Donc la loi discriminait contre eux.
They weren't equal citizens.
Ils n'étaient pas des citoyens égaux aux autres.
And so this meant that Eugene Allen, who himself was African-American, was present when presidents were discussing and negotiating how African Americans were to be treated in the United States of America.
Donc ça veut dire que Eugene Allen, qui était lui-même africain-américain, était présent lorsque tous ces présidents étaient en train de avoir des discussions pour donner ou pas des droits aux Africains-américains aux États-Unis.
And most of these presidents were actually quite concerned. I mean, they had an African American butler, so they were ready to give African Americans equal rights, but they were negotiating with those who weren't.
Et la plupart des présidents à ce temps voulaient donner les droits, tous les droits aux Africains-Américains, mais ils étaient dans beaucoup de négociations avec d'autres partis.
But what interests us is that Eugene Allen had a key insight. He had a peek behind the curtain, as it is. I'm not sure how to translate that. He had a peek behind the curtain as to how these two culture groups would be reconciled.
Et donc ce qui est intéressant avec Eugene Allen, c'est que lui, il pouvait voir l'envers du décor et avoir et voir un petit peu comment ça allait se passer, ce changement et ces négociations.
In fact, I'm realizing now that some of you may not know what peek behind the curtains means in English. And essentially, he knew things that weren't publicly known. So he knew things about plans for reconciliation between African Americans and Caucasians that weren't publicly known to everybody in America at that time.
Donc lui, il savait des choses que le public ne savait pas par rapport au plan de réconciliation entre les personnes blanches et les Africains-Américains aux États-Unis.
And Eugene Allen served faithfully and humbly during those 30 years, even though it caused stress on him and his family.
Et Eugene Allen, il a continué à servir humblement pendant toutes ces années, même si les conséquences étaient assez stressantes pour lui-même et pour sa famille.
So Eugene Allen's unique position and story gives us helpful insights into Paul's unique position and Paul's story.
Et donc la position unique de Eugene Allen peut nous aider à comprendre la position unique de Paul dans cette histoire.
That's why I'm sharing it, because yes, it's a nice story, but if it's not going to help us understand the text, I could have shared it at a different time. So first, we see that here Paul talks about the administration of grace that was given to him. And in French, it's translated a bit more helpfully than it is in English, because who of you understands what that means when someone says, hey, I was given an administration of grace? Not many of us.
On va parler de l'administration de... Enfin, en anglais, c'est dit comme l'administration de la grâce, mais on va voir que la traduction française est un peu plus explicite.
C'est ça. En français, we're told. I'm looking at verse 2, where he says, Surely you heard of you. Surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. And in French, it says, "Vous avez certainement appris quel." Oh no, that's my translation. Sorry. Do yours, because that's what everyone has.
Oui, donc, oui, en français, c'est donc « Vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. »
So, « administration of grace » in French is translated to « comment je fais part », which in English is « you have understood how I have shared God's grace to you. » Much easier, right, to understand than « administration of grace ». And yes, essentially, Paul is simply saying « God has appointed me to be a butler of grace for his household. He's appointed me to be a steward, to be an administrator, an attendant of grace in God's household. That's the word administration. That's what it was meant to signify, the commissioning of service to someone.
Donc, Paul, il est en train de dire que Dieu l'a donné le rôle de majordome ou d'intendant pour Dieu, pour donner la grâce aux personnes. Et c'est donc dans ce rôle qu'il peut faire part aux autres de la grâce de Dieu.
You see, where Eugene Allen's responsibility was to serve the president's household by providing food and comfort and that sort of thing, Paul's responsibility is serving God's household by preaching the gospel of Christ, otherwise known as the gospel of grace, to all people, Jews and Gentiles.
Et donc, si le rôle de Eugene Allen, c'était de servir et de donner du confort ou de la nourriture aux invités de la Maison Blanche, le rôle de Paul, c'était de servir et de Dieu et envers les autres personnes pour leur donner la grâce de Dieu.
So that's the first way that Eugene Allen helps us understand Paul's position, helps us understand sort of the nature of Paul's work as a steward, as a sort of butler for God's household. The second way that his story helps us understand what Paul's talking about is when Paul talks about a mystery that is being revealed to him, that has been revealed to him.
Donc une autre chose qui est pareil entre Eugene Allen et Paul, c'est que les deux ont vu ou connaissent un mystère.
Oh, you've gotten there before I have. Now, when we talk about, we see that in verse 3, where Paul says the mystery, you know, he talks about God's grace as the mystery made known to me by revelation. Really, his responsibility is the mystery made known to me by revelation.
Et donc on peut le voir dans le verset 3 quand Paul dit c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit.
Now when we talk about mysteries in the context of religion, well, our minds can sometimes go all over the place with that, right?
Donc quand on parle de mystère dans le contexte de la religion, on peut penser à plein de choses différentes.
If you want to know more, come talk to me about the Gnostics and I'll tell you all about a religious group that was big on mysteries.
Et donc, si vous voulez, pardon.
Les gnostiques.
Donc, si vous voulez savoir un peu plus par rapport aux mystères, vous pouvez venir voir Sylvain par rapport à un groupe qui s'appelle les gnostiques. Et eux, ils adoraient les mystères.
So we either, when we think about mysteries and religion, we either think of, we either imagine cults with their mysterious knowledge given to those who are initiated. You know, so there's cults and there's mysteries and you've got to be part of the group to understand this mystery and usually includes doing some sort of weird thing.
On peut peut-être penser à des sectes de personnes à qui il y a un petit groupe de personnes qui ont connaissance d'un mystère et ils vont seulement le dire aux autres après une cérémonie d'initiation un peu bizarre et on ne peut que savoir ce mystère si on participe à cette cérémonie.
Or we imagine very convoluted and hard teachings or doctrines that only the very clever and the sort of spiritual elites can understand.
Où on peut penser à des enseignements très compliqués et complexes, où il faut un niveau d'études très haut, où il faut être très intelligent pour le comprendre.
See, that's not the case here, though.
Mais ici, ce n'est pas du tout le cas.
That's not what Paul means when he uses the word mystery.
C'est pas de ça de, dont Paul parle quand il utilise le mot mystère.
Eugene Allen, as an African-American butler in the White House during the Civil Rights Movement, was able to hear plans being made about how African-Americans and Caucasian-Americans were to be reconciled, right? And we said that he was able to peek behind the curtains.
Donc, Eugene Allen, par exemple, en tant que, en étant Africain-Américain durant le mouvement civique dans la Maison Blanche, lui pouvait voir des choses qui se passaient en arrière-scène par rapport au, au plan de réconciliation entre les personnes noires et blanches aux États-Unis.
In the same way, God had given Paul a peek behind the curtains concerning reconciliation of two people groups that weren't reconciled at the time, Jews and Gentiles.
De la même manière, Paul, il a été, il a pu voir derrière, derrière la scène par rapport au, prendre, au plan de réconciliation entre deux groupes qui n'étaient pas réconciliés à ce moment, c'est-à-dire les Juifs et les non-Juifs.
So for one, for Eugene Allen, the mystery was about how would, you know, was all about the presence, coming up with a plan to give African Americans equal rights. With Paul, the mystery is how is God going to give Gentiles all the rights of being his people.
Donc pour Eugene Allen, c'était il savait comment, enfin, et le mystère c'était de savoir comment on allait réconcilier les personnes noires et blanches aux États-Unis dans le présent. Et pour Paul, le mystère qu'il sait, c'est le plan de Dieu pour réconcilier les Juifs et les non-Juifs sur Terre.
And that's where the similarities end between Eugene Allen and Paul, or between the case for African Americans in the States and the Gentiles as God's people. Because today, African Americans are still struggling for equal justice, whereas God's plan has worked out so well that for the most part, we have all forgotten that there used to be such a thing as Jews and Gentiles.
Et c'est, mais c'est à ce point que les similitudes entre Eugene Allen et Paul s'arrêtent, parce que les personnes africaines-américaines aux États-Unis essayent encore de retrouver d'avoir exactement les mêmes droits que les personnes blanches, alors qu'aujourd'hui, pour les juifs et les non-juifs, on ne se souvient même plus qu'il y avait une différenciation et le plan de Dieu s'est accompli parfaitement.
And so, to sum up all that we've said, who is Paul? Well, Paul is God's servant, God's butler, God's steward, you know, use one of these words that you like the most, given the task of proclaiming that mystery, how Jews and Gentiles are now reconciled together with God and with one another.
Donc pour résumer, Paul est donc le serviteur ou le majordome de Dieu pour annoncer le plan de réconciliation de Dieu pour les Juifs et les non-Juifs.
And the uniqueness of Paul's position was a uniqueness based on history, meaning he was there at a period where this message was groundbreaking. Today, if I start talking to you about Jews and Gentiles and need to be reconciled in God's people, you might look at me with a blank face, kind of wondering. We don't think in those terms anymore. We don't think in those terms anymore because of what Paul so successfully did, or what God so successfully did through Paul.
Et donc, le rôle unique de Paul à ce temps-là, c'était, c'est unique seulement parce que c'est un moment précis dans l'histoire. Donc si on commence aujourd'hui à parler de la différence entre les Juifs et les non-Juifs, on ne comprendrait pas pourquoi on parle de ça. Parce qu'à ce moment, Paul et Dieu ont tellement bien réconcilié ces deux groupes qu'on ne voit même plus la différence aujourd'hui.
At least in most places.
Dans la plupart des endroits sur la Terre.
So that's the first point about God's servant. God's servant, the steward of the mystery of reconciliation. Now, We'll go to, that was quite long, and it's because that was the most important bit that we needed to cover that the passage was focused on. The rest of it will go a bit quicker. And in fact, this section will go quickly depending on how you guys respond to the next three questions that I have.
Donc, la première partie a duré pas mal de temps, mais cette deuxième partie va durer un peu moins longtemps, mais ça dépend de vos réponses à ces trois prochaines questions.
Now, I don't mean to put pressure on you all, but I'm going to ask you three questions from this text. The first one's relatively easy, the second one is a bit harder, and the third one is even harder. And this will help us think through verses 4 and 5.
Donc sans pression, mais on va demander trois questions. Le premier va être assez facile et ça va devenir de plus en plus compliqué.
And I'll read verses 1, 4 and 5 so that you have them fresh in your mind as I ask these questions. So now Paul says, in reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets.
Donc je vais relire le verset 4 et 5 pour vous rafraîchir la mémoire. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes.
So my first question is this. Can we understand the mystery of Christ? Yes or no?
La première question, est-ce que nous on peut comprendre le mystère de Christ? Oui ou non?
All right, yeah, I see absolutely no one shaking their heads. If you were shaking your heads, no, don't be ashamed, don't be worried, that's fine. This passage isn't the easiest text in the Bible to work through. That's why we're doing it together. But quite simply, yes, we can now understand the mystery of Christ. Why? Well, as we talked about before, because of what Paul has done.
Et donc, la bonne réponse était donc oui. Même si des fois les textes peuvent sembler un petit peu compliqués, mais oui, maintenant on peut comprendre le mystère de Christ parce que Paul l'a tellement bien expliqué.
Through Paul, the mystery is made known.
À travers Paul, le mystère a été annoncé, a s'est fait connaître.
Moving right along then, look at that. Second question. All right, who reveals this mystery? Or who reveals the knowledge of the gospel message?
Deuxième question, qui révèle ce mystère ou cette connaissance de l'évangile?
I'm going to give you a hint. I use the word reveal purposefully, intentionally, because I'm thinking about how Paul uses the word reveal.
Comme petite indication, on en utilise bien le mot révéler parce que Paul utilise aussi ce mot révéler. Ça peut vous aider à répondre à la question.
So I think I've heard a tentative answer. Someone whispered it out, but they can shout it out because I'm pretty sure it was the right answer. The Holy Spirit. There it is. So the God reveals this mystery, or God, the Holy Spirit reveals this mystery.
Donc c'est bien ça. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. L'Esprit de Dieu qui révèle ce mystère.
Whenever you look at at least the six verses we had to look at this evening, whenever you look at places where God uses the word revelation, it's always in line with something that God is doing, that God the Spirit is doing. God the Spirit is revealing this mystery to us.
On peut voir dans les six versets qu'on a lus que dès qu'on parle du mystère, c'est en relation à quelque chose que Dieu ou l'Esprit de Dieu a révélé.
See, this is actually important. I'm going to pause here very briefly, even though you guys gave the right answer. I'm going to pause because sometimes we might get the impression that being a Christian is about head knowledge. It's about information that we stock in our brains and agreeing to that information, kind of thing. That's pretty much Christianity. Stuff you know and that you agree to.
On va faire une pause ici pour parler de quelque chose d'important. c'est que quand on est chrétien, on pense que les chrétiens, c'est principalement basé sur la connaissance de faits, de choses, et la connaissance de choses qu'on a dans la tête et où on peut être d'accord avec d'autres personnes.
And it's important. Knowledge is important, right? There are things to know, but being Christian is a bit more than just knowing stuff about God or knowing stuff from the Bible or knowing stuff about Jesus.
Et les connaissances, c'est important, mais être un chrétien, c'est plus que ça. C'est plus que juste savoir des choses sur Dieu ou sur la Bible ou sur Jésus.
Because if it was just about knowledge, that can't explain the testimonies have of people who sit at church on a Sunday and listen to the gospel preached 100 times over and over throughout their life without ever committing to Christ, without ever believing in Jesus Christ, without ever seeing their life changed and renewed and their relationship restored with God.
Parce que si ça dépendait que des connaissances, ça n'expliquerait pas pourquoi il y a des histoires de personnes qui viennent tous les dimanches à l'église et ils entendent l'évangile chaque semaine pour des années, mais leur relation avec Dieu n'a jamais changé, lui, et ils ne changent pas leur relation avec Dieu.
It doesn't explain the story of a guy named John Wesley, and I wanted to sort of explain it a bit longer, but we don't have the time for that. So if you're curious, come ask me about John Wesley. But does it explain the story of John Wesley, who for years, who went as a missionary to America to preach the gospel to people and to Native Americans in America, but never didn't believe the gospel himself. And we know that because looking back on his life, he wrote, I have a quote here somewhere, but I think I lost it. I went to preach to the Native Americans, but who would preach to me?
Et donc ça n'explique...
Actually, I went to convert the Native Americans, but who would convert me, is what he says, I remember. Sorry.
I lost the quote now. I don't think I'll be able to translate that. Donc ça n'expliquerait pas, par exemple, l'histoire de John Wesley, où on peut en parler plus si vous voulez, mais pas ce soir parce qu'on n'a pas trop le temps. Un missionnaire qui est parti aux États-Unis pour partager l'évangile avec les Amérindiens qui y étaient, mais qui lui-même il ne croyait pas en l'évangile.
Et on sait qu'il ne croyait pas à l'évangile parce qu'il lui disait lui-même après que je suis allé convertir les Indiens, mais qui allait me convertir ? Moi. And well, later on, someone does convert him, and it's the Holy Spirit. So that's my point. It's the fact that the Christian message isn't discovered through studious learning, but it is revealed by God, by His Spirit.
Et donc plus tard, il a été converti, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a converti. Et donc, être un chrétien, ce n'est pas juste avec les connaissances, mais c'est avec l'Esprit de Dieu.
And I have a couple of application points at the end, but I'm going to sneak one in right here. And the application is this. If you believe you become a Christian through what you know, the danger is what you know makes you proud.
Et donc là, on peut parler d'un moyen que ça peut s'appliquer dans nos vies. C'est que si on base notre chrétienté sur ce qu'on sait, nos connaissances, après ces connaissances vont nous rendre fiers.
And I can tell you that from personal experience. But if you understand that you are saved by God's Spirit, there's no way to be proud, because it doesn't depend on you, it depends on God.
Mais si votre relation avec Dieu dépend de l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune manière qu'on peut être fier parce que ce n'est pas dépendant sur nous et sur ce que nous on a fait.
All right. That's the second. Third question is this. Is the gospel shared by Paul a new message or an old message?
Troisième question. Est-ce que l'évangile partagé par Paul, c'est un nouveau message ou un ancien, vieux message?
What I mean by this is this a message we see in the Old Testament? Or not.
Est-ce que c'est un message qu'on voit dans l'Ancien Testament?
This is the hardest answer.
C'est une question un peu plus difficile. Au verset 9, ça vient de l'Ancien Testament.
Some people are suggesting verse 9 holds the key. And verse 5 has helpful things to say about it as well, as well as verse 9. Verse 9 and 5 say something helpful, and they say this. That which was not, verse 5, made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit, by the Spirit to God's holy apostles and prophets. And verse 9 says, to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden, and God who created all things.
Donc on parle donc des versets 5 et 9, où il est dit, il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit. Et dans le verset 9, et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ.
So is this an old message or a new message? The answer really is a little bit of both. All right. It is an old message that can be seen in the Old Testament, but that has made known in the New. Or let me put it to you this way. What can be clearly seen as if a light is on in the room in the New Testament is seen in the Old Testament as if the light was dimmed.
Et donc pour enfin la réponse à la question c'est un peu des deux, c'est un ancien et un nouveau message. Donc pour donner une illustration, c'est donc un message qu'on voit très clairement dans le Nouveau Testament comme si une lumière était allumée dans une salle, et dans l'Ancien Testament on le voyait mais pas très clairement, comme si la lumière était ne marchait pas.
moins fort, on peut dire. Moins fort. And the reason why is, I'm going to put it this way. God, by the Holy Spirit, turns on the light in Paul, prophets, and the apostles.
Et donc la raison pour ça, c'est que Dieu, il allume la lumière pour Paul et pour tous ses apôtres.
And so they spread the light in each other. All right. So that's the second part about God's purpose in revelation. That's what I want to talk about. How God has revealed the mystery. No, there's no mystery anymore. We're not all looking for a mystery to be shared. It's revealed. It's out there. And the light has come on. But it came on progressively. All right?
Donc ça, c'est le plan de Dieu où il a révélé le mystère. Il n'y a plus de son. Il n'est plus sombre. Il a allumé la lumière, et donc tout le monde sait ce qu'était ce mystère.
Last thing is about God's people. I said we're going to say something about God's people. Now this is going to be the shortest thing because the last 3 weeks we've been looking all about and thinking all about God's people and the Jews and Gentiles coming together, being reconciled, Gentiles being. Well, go on.
La troisième partie, ça va donc être le peuple de Dieu, et ça va être plus rapide parce que les trois dernières semaines, on a regardé en détail ce qu'était le peuple de Dieu, les juifs et les non-juifs, etc.
I'm going to read verse 6. And while I read verse 6, there is one word that is repeated thrice. And I haven't checked if any other words have been repeated three times. But one word that's repeated three times, and I'm going to ask if you can identify that word. I think Sophie's looking for the word, don't you? Je vais lire verset 6. Sophie va lire verset 6. Et en lisant, essayez d'identifier un mot. Ça marche en anglais, peut-être pas en français, on verra. Un mot, je pense que ça existe en français en fait. Un mot qui est répété trois fois. Donc essayez de voir si vous pouvez cerner ce mot. So this mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel's members together of one body and sharers together and the promise in Christ Jesus.
Le verset 6 dans ma version, ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile.
All right, what was the word?
Okay. Donc en anglais c'était le mot ensemble, mais ça s'est pas trop répété en français, donc voilà, les francophones, c'est normal que vous n'aviez pas la solution.
Je pense qu'on peut voir un même.
Mais pas trop. Parce qu'il y a co-héritier, donc c'est pas héritier ensemble. Encore avec eux. C'est, enfin...
Ma traduction, ce qui est le summer dit, le même héritage, le même corps et la même promesse.
Alors ça marche dans quelques versions, mais pas la mienne.
même, on peut dire, together, ensemble. Awesome. Where am I? Yeah. See, Paul's stressing the togetherness of his people, isn't he? He goes out of his way to make sure that they understand that God's community is a community that is together. You know, it's an awkward way of saying things in English, but I'm saying it to stress what Paul is stressing.
Ça montre que Paul, il veut vraiment porter notre attention au fait que nous, on doit être ensemble. Les juifs et les non-juifs doivent être ensemble. C'est pour ça qu'il a répété 3 fois un verset.
And for us, though we don't think in Jews in those categories anymore, Jews and Gentiles for the most part, there are other categories that might divide us, right? That's why it's helpful to think about the things that do divide us. And if you want to, I'll put in a plug for what's happening here on February the 2nd. But if you come to that, we'll talk about how we can have differing ideas without being divided, right? We can disagree without being divided. But there are other cultural things that may divide us. But Paul is stressing. Well, before I tell you what Paul is stressing, Sophie will translate.
Aujourd'hui, on parle très rarement en termes de juifs et non-juifs, mais il y a quand même des choses qui peuvent nous diviser en tant que personnes. Et on pourra peut-être le voir à la conférence du 2 février, comment on peut réconcilier ces différences pour être un peuple en Dieu. Mais même aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent nous diviser.
But Paul is stressing that the church is supposed to be a multi-ethnic community of God's people, equipped by God's Spirit and united in Christ, our God.
Donc, Paul, il essaye vraiment de nous dire que le peuple de Dieu, c'est censé être un groupe de personnes multi-ethniques armées avec l'Esprit de Dieu pour faire le plan de Dieu.
And though some of them are in jail, and others might be suffering in different ways, they are still together as a
Et même s'il y en a quelques-uns qui sont prisonniers et peut-être d'autres sont en train de souffrir, ils sont toujours ensemble dans une communauté.
So how do we apply this whole thing to us? Just a couple of things. First, I'm going to work off what I just said about how the community is supposed to be together. Well, as Christians, you're supposed to belong to that community.
Donc comment est-ce qu'on peut appliquer cette chose dans notre vie aujourd'hui? Déjà, on sait qu'en tant que chrétien, on est censé être dans une communauté les uns avec les autres.
You see, Paul uses here the image, and I think it's not the first time in this letter, but Paul uses the image of a body to describe the Christian community. And what happens when to the bit of the body that is disconnected from the rest of it?
Paul utilise l'image d'un corps pour décrire le peuple de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand un membre du corps se déconnecte du corps?
No notes? It dies.
Ça meurt. Il meurt.
Likewise, life is tough for the Christian if they are not part of the body of Christ. If they don't meet in the church, if they're not part of the church, and that sort of thing. So let us pray for one another. Oh, wait, I like translating.
De la même manière, si quelqu'un part de la communauté de Dieu et qui vient pas à l'église et qui vient pas pour dans la communauté avec d'autres chrétiens, ça devient vraiment beaucoup plus difficile.
Second, we need to realize that we are not called, right? We're not waiting for some revelation, divine mystery to be revealed to us. Paul is unique in his role as God's apostle, and in the revelation that was given to be revealed to us.
Il faut aussi qu'on réalise que nous, on n'est pas Paul, et que ça ne sert à rien d'attendre qu'il y ait une nouvelle révélation qui est montrée à nous, parce que le rôle de Paul était très unique et ancré dans l'histoire.
But though we aren't Paul, God used Paul through his differing circumstances and uses each one of us to bring glory to Christ and to share the gospel. So you're not Paul, but yet you're still unique and God is still using you.
Malgré le fait que nous, on n'est pas Paul, Dieu a pu utiliser la situation de Paul pour nous apporter toutes les choses qu'on connaît aujourd'hui. Et il peut faire la même chose pour nous et utiliser notre position unique pour accomplir des choses dans son plan. Et donc, vous êtes aussi unique que Paul dans cette manière.
And why is that? Why is God using? Because you have the Holy Spirit in you. Right? That is the thing that reconciles being able to be humble in one sense, but also having value and putting value in what we do. We have the Holy Spirit who works in us and through us to strengthen the church and to grow the church.
Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut se tourner vers l'Esprit de Dieu qui, en fait, réconcilie le fait qu'on doit être humble par rapport à notre position, mais aussi où on sait qu'on peut apporter des choses unique et importante dans le plan de Dieu, et c'est seulement à travers l'Esprit de Dieu.
And finally, your suffering has purpose. And we said that at the beginning. But there are very little religions which gives as much purpose to suffering as the Christian religion. Christ uses all things for his glory.
Et enfin, il y a une raison pour notre souffrance. Et il y a peu de croyances qui donnent tellement de raisons à notre souffrance aujourd'hui sur ce monde. Mais Dieu utilise toutes les choses pour sa gloire.
Suffering might make us feel like God is far from us. And sometimes it's not even our suffering, but the suffering of a loved one. And it might make us feel discouraged.
La souffrance, en fait, ça peut nous donner l'impression qu'on est loin de Dieu, et même des fois pas notre propre souffrance, mais la souffrance de quelqu'un qu'on aime, ça peut nous donner l'impression que Dieu il n'est pas là et qu'il nous a abandonnés.
But please find comfort in the reality of Jesus' sovereignty, and do not underestimate God's care of those who are suffering.
Mais donc soyez réconfortés par le fait que Jésus, il est souverain sur tout et il peut vous réconforter dans votre souffrance.
Let's pray.
Prions.
Our Heavenly Father, thank you for making this gospel of reconciliation between all people and between you and us known through Paul.
Notre Dieu, merci d'avoir fait cet évangile de réconciliation entre tous tes peuples et entre nous et toi aussi, mon Dieu.
Lord, we ask you to help us realize that you are powerfully at work in the weakest of us, and you are powerfully at work in the worst of our circumstances.
Et aide-nous, notre Père, à réaliser que tu es souverain et que tu as la puissance en nous, même dans les plus faibles d'entre nous, dans les situations les plus dures et compliquées.
Lord, help us come to Christ, realizing that his burden is light. In fact, he relieves us of our burdens and cares for us in a way that no one else can.
Aide-nous, notre Dieu, à venir vers Christ, parce que c'est lui qui enlève notre fardeau.
Lord, help us find peace and joy in the gospel.
Notre Père, aide-nous à trouver la paix et la joie dans ton évangile.
Amen. And we pray these things in his name, who has reconciled us, who is interceding for us, and who cares for us. In Christ's name we pray.
Donc on prie au nom de celui qui nous réconcilie avec toi et qui nous réconforte. Amen.